cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.
Ça, c'est un point d'orgue.
C'était donc la quatrième version. Maintenant, on va, avant de se retrouver pour faire le bilan, on va écouter la fin de la huitième version.
Ouf. Ouf, en effet.
Deux très belles versions. Hein. Ça, en fait, on n'arrivera pas à les partager. Je
ne crois pas. C'est des versions assez différentes.
Et
tout
tellement
même,
complémentaires. Hein, voilà. Une fois de plus, on va vous engager à acheter deux versions.
Ouais, si vous ne les avez déjà.
Oui. On ne sait pas qui c'est en plus. Donc peut-être que ce sont de d'immenses.
Ça va être la grande surprise.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, Stéphane ?
Eh ben, tout simplement, on a véritablement une confirmation. C'est-à-dire que dans la quatrième, la réflexion que nous faisions tout à l'heure à l'écoute de ces deux versions, pour la quatrième, évidemment, on est dans la fosse d'un opéra ou d'un ballet. Et là, on a quelque chose qui se produit qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un chef et un orchestre qui se donnent complètement à fond, physiquement, et qui restituent parfois presque jusqu'au péril, mais je sais que l'un et l'autre, vous n'êtes pas toujours d'accord, au péril de certaines couleurs, de certains timbres qui ne sont pas très beaux. Mais bon, on arrive à quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est sensuel, c'est à la fois en même temps c'est sentimental, mais au meilleur sens du terme.
C'est l'expression de la passion un peu slave.
L'expression de la passion avec un final complètement délirant.
Dire que ça va sonner russe ou slave, j'espère qu'Alain Lompèche ne nous écoute pas, parce que notre ami du monde déteste ce genre de comparaison, mais quand même, c'est vraiment russe. Là,
on est complètement on est complètement dans cette passion.
Tellement sentimental, tellement impliqué, tellement triste.
Tout à fait.
Et puis très vivant, quoi, surtout, c'est ça. C'est absolument pris à la fois au premier degré pour ce qui est des émotions, et puis en même temps, il y a quand même une maîtrise orchestrale, quoi qu'en dise Stéphane. Il y a quand même une maîtrise orchestrale, justement.
Et puis de la forme,
Fait de pouvoir faire que son orchestre suive comme ça parfaitement une espèce de rythme un peu organique permanent, c'est quand même un signe de grande virtuosité.
Ça, c'est sûr.
Oui, simplement, le seul bémol, c'est pas tellement sur la critique proprement dite de l'orchestre.
On parle
c'est
de la quatrième version.
Par rapport à la comparaison avec la huitième.
Oui.
Où là, on se situe dans un orchestre, dans la huitième, justement, où l'orchestre est véritablement sur scène, c'est un orchestre symphonique. Il fait un poème symphonique. Et la qualité, ne serait-ce qu'au niveau des cordes, et le raffinement dans les effets est infiniment
et
plus
supérieur,
calculé et supérieur.
Mais
il y a quand même une intensité formidable de l'interprétation. Même si on n'est pas aussi, si c'est pas tout à fait aussi vivant que la version 4, il y a une intensité, il y a par moments plus d'intensité,
alors
plus
de
matière.
De 8, hein.
Oui, il y a plus de matière, il y a aussi plus de suite dans les idées, je dirais, dans cette version.
Plus de rigueur intellectuelle,
voilà, oui.
Mais d'un autre côté, moi, je ne voudrais pas qu'on fasse de la 4 non plus une version purement slave, spontanée, de concert, enfin un peu pétaradant, mais creux. Moi, je trouve qu'il y a une grande maîtrise aussi de la forme dans cette version, une grande maîtrise de toutes les idées qui peuvent jaillir comme ça au fur et à mesure, et puis en même temps tout est calculé de manière assez géniale aussi. Hein. Moi je défendrais toujours la 4 comme étant ma version favorite, mais bon.
C'est une version qui est d'un bout à l'autre complètement narrative, complètement
engagée.
Elle
exprime mieux la passion, je trouve, que si on peut résumer cette
par la prise de risque,
Roméo et Juliette à ça, que la version numéro 8 qui est extraordinairement orchestrale, mais peut-être justement que ça. Quoi. Mais bon.
Oui, disons que
je suis un peu dur là.
Là, pour le coup, vous êtes un peu sévère.
Non, c'est un peu sévère, surtout que l'action, quand même, elle est.
On va garder les deux. On garde les deux.
Et
on se retrouve pour le bilan. Alors, c'est le moment de découvrir les versions. Les versions
cruelles.
Écoutées de ce Roméo et Juliette de Tchaïkovski. On va commencer par la version qui nous a le moins plu, qui était la version numéro 3. Et c'est un chef qu'on aime beaucoup pourtant à Classica. C'est Kirill Kondrachine avec l'Orchestre Philharmonique de Moscou. Une réédition récente de Melodia qui était couplée avec une très belle pathétique.
Absolument.
Stéphane, un petit commentaire ?
C'est une version de 67. C'est une version qui mérite d'être écoutée, tout simplement parce qu'il y a des climats qui sont extraordinaires. Mais une fois encore, elle est complètement gâchée par une prise de son absurde et puis un mastering qui est désastreux. Ce qui fait que ce chef qui a tellement bien réussi dans les années 60, notamment des Rachmaninov qui sont ahurissants, ou des Shostakovich, c'est un vrai désastre.
Franchement, je me demande s'il n'y a pas deux prises de son mélangées dans ce truc-là.
Oui, ça fait un petit peu, ça fait tellement artificiel qu'on a l'impression que c'est presque un pirate.
Ouais.
Pourtant, c'est l'éditeur officiel. Mais bon, peut-être qu'il... On sait qu'à une époque, Melodia avait perdu ses bandes dans des sous-sols noyés par l'eau.
Noyés par l'eau, oui. Et d'ailleurs, les gens de Melodia disaient notre problème, c'est pas de classer les archives, c'est des problèmes de tuyauterie. Ce qui révélait d'ailleurs l'état post-soviétique des archives, qui était assez désastreux.
Et là, les rééditions sont globalement satisfaisantes, donc c'est vraiment décevant. Oui. D'ailleurs, j'ai l'impression, Stéphane, que c'est vous qui avez choisi les huit versions qu'on a écoutées. Là, vous avez peu choisi de version russe.
Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes.
Alors, avant-dernière version, hein, donc, c'était la deuxième, hein, qu'on n'a pas trop aimé non plus, qui est aussi une grande version de référence des années 60, si je ne me trompe pas trop. C'est Dorati avec le LSO chez Mercury.
Chez Mercury, alors avec une prise de son des années 59 qui est absolument incroyable. Au niveau de la qualité, il faut savoir qu'à l'époque, ils enregistraient sur des bandes film 35 mm. Donc, il y a une présence fantastique.
Beaucoup de souffle, hein, quand même.
Beaucoup de souffle aussi.
Sur le podcast, ça ne va pas trop s'entendre.
Voilà, et puis, il faut dire que dans notre studio, on a quand même un petit peu poussé le souffle dans la mesure où... la mesure où on adore vraiment cette œuvre. Il faut savoir aussi que Dorati a enregistré quelques années plus tard, 20 ans plus tard, avec l'Orchestre National de Washington, chez Decca, et ce n'est pas vraiment un très, très bon enregistrement.
Comme tous ces disques à cette époque, hein. C'est généralement décevant.
C'est toujours très décevant. Oui.
Les derniers enregistrements de Dorati. On avance dans le classement. Version numéro 7. Alors là, c'est une grosse surprise. Hein. C'est Karajan qui, pour moi, était un des favoris. Il a enregistré 4 fois, si je me trompe.
Absolument.
Et là, c'est la dernière version qu'on a entendue donc en Karajan Gold avec Berlin dans les années 80.
Absolument. La date exacte, en 1983.
83.
Donc, il l'a enregistré 2 fois avec Berlin en 66 et en 83 pour Deutsche Grammophon.
Oui, la version de 66, qui est celle qui est couplée avec le petit coffret hein, des symphonies Tchaïkovski années 60. Tout à fait,
qui vient d'être réédité. Donc, c'est une très bonne version, mais la version 83, à ceci de particulier, c'est qu'elle poussait au maximum l'esprit du legato si cher à Karajan et qui démontrait d'ailleurs la perfection de l'orchestre. Mais il se trouve qu'on a probablement trouvé quelque chose de mieux.
On s'ennuie un peu, oui. Mais moi, j'ai un très bon souvenir de la première version de Karajan avec Vienne en 46. Alors là, pour le coup, qui est très très mal enregistré.
Qui était chez EMI et parfois avec certains déséquilibres d'ailleurs. Et il a réessayé.
Et la version Vienne Decca.
Alors la version Vienne Decca est très décevante. C'est probablement un des enregistrements les moins intéressants sur le plan musical.
Du coffret, par ailleurs, absolument génial.
Du coffret années 60. Complètement plat. Là, ils n'utilisent pas vraiment l'orchestre au maximum. On reconnaît un peu les couleurs de Vienne.
Si on veut écouter Karajan dans Tchaïkovski, on peut recommander les pathétiques avec Berlin. Elles sont toutes vraiment extraordinaires. Chez DG ou chez EMI.
Absolument.
Alors, on passe à la version suivante.
Alors, la version numéro 5.
Donc, c'était la cinquième. Alors là, c'est une surprise, parce que c'est une version, moi, je dois avouer que je ne connais pas. C'est le Symphonique de Prague, dirigé par Smetacek. Chez Supraphon.
Voilà, c'est d'autant plus étonnant que c'est un très bel enregistrement au niveau de la qualité, simplement sonore. Ce chef qui est mort en 1986, qui a été le chef du FOG de Prague, qui est devenu après le Symphonique de Prague, était surtout réputé pour le répertoire contemporain. Et c'était un chef qui a très très peu voyagé, qui est resté surtout en Tchécoslovaquie. Et il y a énormément d'archives de lui chez Supraphon, mais également chez Praga. C'est un chef qui mériterait vraiment d'être connu et qui a su profiter justement de la qualité des orchestres tchèques et notamment de leurs couleurs qui sont très particulières. Et il avait une façon très, très chantante de diriger, très simple et en même temps très précise. C'est pour ça d'ailleurs que cette version est assez remarquable.
Oui, c'est la version qu'on avait trouvée un petit peu intello, un truc
un peu brahmsienne.
Et allemande, comme quoi.
Oui.
L'empêche à raison.
Absolument.
Maintenant, on va rien écouter du tout. On va savoir qui était la première. On avait bien aimé la première. Oui. On aurait presque aimé même la. Enfin, comme les versions maintenant dont on va parler, mais on aurait presque voulu aussi les écouter en entier, comme on l'a fait avec la 4 et la.
Voilà.
Et la 8, mais un petit peu en dessous, une version live. C'est Pierre Monteux avec le LSO.
Alors ça, c'est une version vraiment extraordinaire
de
1963. En réalité, c'est une version qui a été enregistrée par Vanguard et qui a été rééditée d'ailleurs dans un coffret en Dante consacré à l'Orchestre symphonique de Londres.
Exact.
Et c'est une version qui est assez remarquable parce que, évidemment, on sent que c'est un concert, un enregistrement public, mais en même temps, il y a une présence et il y a une matière... un grain sonore qui est vraiment remarquable.
Là aussi, on vous encourage à l'écouter en entier.
Il faut savoir quand même que Monteux avait 78 ans quand il a enregistré cette version. Et on a vraiment l'impression d'une... Il y a un côté très juvénile dans la manière dont il dirige l'orchestre. Et l'orchestre est absolument somptueux en concert. Il faut savoir aussi qu'il l'a enregistré l'année suivante, alors là, officiellement, avec l'Orchestre symphonique de la NDR.
Ah oui.
Une version qui, malheureusement...
Totalement oubliée, hein.
Et mérite d'être oubliée d'ailleurs, parce qu'elle est ressortie d'ailleurs chez Scribendum dans la série des Concert Hall.
D'accord.
Et vraiment, c'est une version qui n'a pas grand intérêt.
Bon, c'est pas le cas de la version suivante.
Donc le trio de tête.
Voilà. Ah bah tiens.
Là, on découvre des choses étonnantes parfois.
Ah oui, non, mais Stéphane est vraiment un petit coquin parce que la version numéro 6, donc, qui est la troisième première version sur le podium, c'est à nouveau Karajan.
C'est à nouveau Karajan, mais évidemment cette fois-ci avec Berlin en 66. Et avec le côté, j'avais sélectionné cette version parce qu'elle n'avait pas encore le côté jusqu'au boutiste de la version 83, de la dernière version de Karajan, mais toujours avec Berlin, elle donnait davantage d'ampleur au côté physique et à une sorte de démonstration d'orchestre beaucoup plus intéressante. Et je sens d'ailleurs qu'il va y avoir un grand mouvement de surprise pour la version suivante, pour la deuxième version.
Moi déjà, je
dois
dire,
version.
En fait, cette version 6, là, moi j'ai cru que c'était Bernstein, hein, je dois l'avouer. Version qu'on avait en tête, qu'on va peut-être avoir plus loin, mais en tout cas, bravo. Alors la version numéro 8, qui est effectivement très surprenante, et là encore, moi j'ai cru que c'était peut-être Bernstein, et en fait, c'est une version, alors là, totalement inconnue, je dois dire, de Sinopoli avec le Philharmonia chez Deutsche Grammophon. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Eh ben, moi, j'étais d'abord...
Un disque a dû jamais être réédité parce que...
Non, il n'a jamais été réédité. Bon, il faut savoir que ce chef est disparu en 2001 à l'âge de 45 ans.
Très controversé.
Un chef extrêmement controversé.
Bah, et très inégal aussi.
Et très extraordinairement inégal. Il nous a donné, par exemple, une cinquième de Tchaïkovski remarquable, qui passait généralement sous silence.
Il a totalement délirant et plutôt raté. Voilà,
il a loupé certaines choses extraordinaires. Il faut savoir que quand on a ce genre d'œuvre, c'est-à-dire qui font vraiment appel à la psychologie. Alors, je sais bien que c'est un lieu commun, mais quand on a en face un chef d'orchestre qui a quand même suivi des études de psychiatre, qui était passionné par le répertoire...
Pas forcément bon signe, ça.
Oui, c'est pas forcément bon signe, mais justement, ça peut être très intéressant. Et quand on sait à quel point il adorait le répertoire contemporain, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire dans ce répertoire ? Et évidemment, ça donne quelque chose d'assez surprenant.
Bah, c'est un grand chef, de toute façon, post-romantique. Ces Strauss sont vraiment des grandes références.
Et puis,
il a un orchestre avec lui qui est vraiment extraordinaire.
Le Philharmonia, oui, on l'entendait pas.
Le Philharmonia de Londres, alors qu'on sait qu'il était quand même le patron de
Dresde.
Si je regarde mes petits papiers, c'est 89. Donc c'est vraiment une très très grande réussite.
Alors c'est un disque de Grammophon, parution CD donc de 89, couplé avec la pathétique. Bon, il faudra chercher pour le trouver là pour le coup. Mais...
Là, ça va pas être évident.
Si, ça peut se trouver.
Tout se trouve. Hein.
Tout se trouve.
Notamment sur Internet.
Voilà.
Et le vainqueur, on s'en doutait un petit peu du coup, c'est Gergiev avec l'orchestre du Kirov, chez Philips, version récente, 95.
Absolument. Alors, on pourrait peut-être émettre un regret. Je sais bien que mes camarades ne vont peut-être pas être d'accord. C'est que, comme vous le savez, Gergiev a enregistré les dernières symphonies de Tchaïkovski, notamment avec Vienne. Il les a fait en live. Ce sont des enregistrements qui sont assez exceptionnels parce qu'ils mettent justement en valeur la qualité de l'orchestre. Ici, on a un orchestre qui vraiment donne le maximum, qui est extrêmement à sa place dans le cadre d'une fosse, qui a toutes les qualités requises. Mais on aurait quand même aimé avoir, enfin, majeur,
c'est quand même le vainqueur, Stéphane. Donc,
davantage, peut-être, de subtilité dans certains pupitres, et pourquoi pas l'entendre avec Vienne. Quoi qu'il en soit, le résultat est quand même extraordinaire. Et puis,
moi, je suis pas d'accord.
Extrêmement bien enregistré.
D'ailleurs, bon, ce disque Philips, bien enregistré, certainement, au Marinsky, est couplé avec une pathétique qu'il faudrait pouvoir comparer avec le live de Vienne, et je suis pas sûr du tout que ce soit Vienne qui l'emporte. Hein. On se retrouvera peut-être l'année prochaine pour une pathétique. On aurait assez envie. Hein.
Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, en effet. Alors, si on pouvait peut-être compléter un petit peu ce panorama...
Bah oui, alors moi, j'ai quelques questions à vous poser, Stéphane.
Aussi,
on répète que c'est Gergiev et Sinopoli qui ont gagné cette écoute comparée. Et quelques récidivistes notoires, par exemple, Abado, vous ne l'avez pas regardé ?
Non.
Pourquoi ?
Non, tout simplement parce que si on...
Quatre versions chez Deutsch ou...
Voilà,
Deca.
Alors si on regarde un petit peu l'ensemble des versions Abado...
Pourquoi pas Abado, déjà ?
Eh ben, tout simplement.
Il y a des orchestres exceptionnels.
Chicago, mais
Berlin,
si on se place sur le point de vue de chercher justement dans cette œuvre très particulière, et puis Boston, de chercher dans cette œuvre très particulière justement les versions les plus typées, ben on s'aperçoit que ça ne tient pas toujours la route.
C'est beau, mais trop neutre.
Voilà, absolument.
C'est le cas aussi de Mazel. Il y a une version très connue avec Berlin en 57.
Voilà, il y a une version très connue. Bon, malheureusement, bon, elle est en mono.
Il y en a trois autres, je le signale.
Alors, c'est vrai que je n'ai pas exclu de principe les monos.
Ah non, elle n'est pas en mono.
Mais il y a une version DG aussi. Elle est en mono. D'accord. Si. Et puis, le problème, c'est que là, chez DK, la réédition qu'il avait fait chez DK avec Cleveland, si ma mémoire est bonne, n'est vraiment pas du tout à l'auteur. Là, c'est carrément sirupeux et maniéré.
Oui, ça, on pouvait s'y attendre. C'est vraiment parce pas très bon. Évidemment, le Mazel des années 50 est meilleur, généralement.
Alors, il y a quelque chose peut-être à souligner aussi. Sauf erreur, évidemment, il y a quand même de grands absents.
Vous voulez bien, Stéphane, excusez-moi, mais j'ai...
Bernstein.
Voilà.
Qui est souvent cité comme référence.
Alors, justement,
la version New York, qui est en CD couplée avec l'extraordinaire pathétique.
Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait exactement la même chose. D'ailleurs, vous regarderez le tempo qui est extraordinairement long. Le problème, c'est que là,
c'est
ça
plus
long
que Sinopoli encore.
Ça passe pas du tout. C'est beaucoup plus long que Sinopoli. Ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire que c'est d'une vulgarité sans nom.
Ce qui est réussi dans la pathétique n'est pas dans le Roméo et Juliette.
Ça ne marche pas. Et ce qui ne réussit dans la pathétique, si la durée de l'interprétation est si longue, c'est uniquement pour le final de la pathétique. Pas pour les autres
mouvements.
Pas pour les autres mouvements. C'est vraiment le final.
Mais tellement habité.
C'est vraiment le final qui est caractéristique chez Bernstein.
Bon, alors tant pis pour Bernstein.
Alors que là, ça ne fonctionne pas du tout.
Moi, j'ai un autre regret, Stéphane, vous allez nous en parler, avant qu'on passe à ce que vous vouliez dire, les grands absents. C'est du chef russe réputé dans ce répertoire, notamment... Moi, je pense à deux chefs. Bon, Temirkanov l'a enregistré, mais dans des conditions un peu bizarres. Il y a une version live qui vient de ressortir chez Brillante. Bon,
là, il y a trop de, de problèmes, de bruit de public, etc.
Il y a une version chez RCA qui est assez réputée. Avec le RPO.
Avec le RPO. Non, c'est vraiment pas...
Et Svetlanov.
Alors là, Svetlanov, la version que l'on a chez Melodia pose de gros problèmes, tout simplement parce qu'elle n'est pas bonne. Le son, d'abord, est assez laid. Beaucoup plus laid d'ailleurs que chez Kondrachine, hein. Donc c'est rien de le dire.
Ça promet quand même.
Et puis surtout, il tire quand même l'œuvre vers une certaine vulgarité.
Comme dans la version Canyon.
Qui n'a pas du tout lieu d'être.
Bon. Alors vos absents.
Ah les très grands absents.
Moi, j'ai pas de regrets, je vous avoue.
Ah si,
les deux versions qu'on a écoutées.
On en peut en avoir par rapport au chef qui aurait été susceptible de donner véritablement. Une autre
Mravinsky, peut-être.
Alors, Mravinsky, évidemment. Alors, à moins un jour de retrouver, de voir sortir
une
des archives, bande radio, peut-être
parce
chez
que
Rossiandis ou autre, c'était complètement son répertoire. On peut supposer qu'il l'a dirigé des dizaines de fois. Et ça, on ne l'a pas, c'est vraiment très dommage.
Ça, c'est dommage.
Dans les autres Démiurges de la baguette, il y a Mitropoulos, qui aurait très bien pu le faire. Parce
une
que
version
ça,
d'une grande discrétion.
Ça lui aurait plu. Voilà, exactement. Mais là, évidemment, on est en mono. Je pensais aussi à Fort Wengler, car bien qu'il ait peu enregistré de Tchaïkovski, il a quand même réussi de très belles choses, notamment une pathétique. Mm-hmm. Et ça aurait pu
on
également...
On a Célibidache, pour le coup, on n'en a pas parlé,
lui,
mais...
Lui correspondre. Alors, Célibidache...
Avec l'orchestre de Fort Wengler, en 1946.
Avec deux orques, voilà, absolument.
Non, mais on ne parle pas de la version live de la RAI, qui est absolument atroce.
Voilà.
La version avec Berlin.
Et puis, également, Célibidache, voilà, la version de 1946 live, qui est parue, si ma mémoire est bonne et mes papiers actualisés, chez Musique en Art. Voilà, absolument. Et enfin, si je pensais aussi à Markevitch, qui aurait pu donner une dimension et une densité rythmique.
Il n'y a pas de Roméo.
Apparemment, il n'y en a pas.
Bon, écoutez, moi, je me contentais de Gergiev et de Sinopoli. Je crois que la version Gergiev est disponible couramment, c'est certain. Et la version Karajan, qui était magnifique, la version qui arrive en troisième, donc qui était la numéro 6.
Et elle aussi disponible dans le coffret.
Elle est disponible dans le coffret dont on a parlé tout à l'heure, avec les concertos et les symphonies enregistrées dans les années 60. Voilà, on peut se contenter de ça, c'est quand même magnifique. Donc on se retrouvera le mois prochain, je peux le dire parce qu'on a déjà choisi l'œuvre qu'on a commencé à préparer, avec le Magnificat de Bach, une ambiance un petit peu différente sans doute.
Cobuzz.com. L'écoute comparée, Classica. Animé par Bertrand Dermoncourt.